Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Un, deux, OK. Bon, en introduction ce matin, je vais vous parler de la ville de Capernaum. Ça, c'est une ville qui est assez importante dans la vie de Jésus. Jésus, après qu'il ait été rejeté à Nazareth, ça, c'est la ville où est-ce qu'il a grandi quand même. On peut dire d'une certaine façon qu'il a fait de Capernaum son quartier général. C'est là qu'il s'en retournait tout le temps. Il retournait tout le temps là. Il partait, il allait quelque part, il retournait là tout le temps. Cette ville-là, pourquoi qu'il s'est en allé là? Cette ville-là est du long de la mer de Galilée, du côté nord. Puis en plus, elle longe une route. Une route qui a été appelée par la suite. Ah ben moi, je viens de là-bas, très beau. Appelée Via Maris. Traduction, parce que ça, c'est en latin, là, selon ce que j'ai lu. Là. Traduction en français, Voie de la mer. C'est une route très, très commerciale. Capernaum, c'était une ville qui était... Il y avait 3-4 villes autour de ça. Puis, il y avait cette route-là qui s'en allait d'une ville à l'autre pour le commerce, pour voir des gens, pour toucher beaucoup de gens. C'était vraiment la meilleure région. Puis, la plus grande partie de son ministère, c'est là que ça va se passer. Capernaum, puis les deux, trois villes autour. Puis, je vais vous amener un passage qui parle de ça. Matthieu 4. Ah, c'est ça. Matthieu 4. 14 à 16. Mais en fait, c'est pas ces versets-là, mais un petit peu avant. Ça commence à 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, dans la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quand que Ésaïe il a fait cette prédiction-là, il a dit que c'était au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Quand il a fait cette prédiction-là, c'était un territoire non juif. C'était des gentils qu'il y avait là. Des gentils, ben. On sait que ça veut dire des non-juifs. Ça parle des tribus de Zabulon et Naphtali. Nazareth, ça se trouvait, dans ce temps-là, en tout cas, à être sur le territoire de la tribu de Zabulon. Capernaum, sur le territoire de Naphtali. Puis il y a aussi les villes de Chorazin et Bethsaïda qui étaient sur le territoire de Naphtali. Puis c'est dans ces trois villes-là, si on veut, Capernaum, Chorazin et Bethsaïda, que Jésus va faire la plupart de tous les miracles qu'il a fait, c'est pas mal là que ça va se poser. Parce que d'après moi, c'était quand même un bassin de population qui était assez grand. Fait qu'en fait, la prédiction d'Ésaïe, elle portait pas tant sur la ville comme de cette région-là, de territoire de ce territoire-là. Fait que, en conclusion, pour ce sujet-là, à cause de cette région, Jésus il a pu rejoindre un maximum de personnes. D'après moi, il avait pogné le meilleur spot, si on pourrait dire. C'est pour ça qu'il a choisi cette ville-là. Ouais, puis comme j'ai dit tantôt, c'est ça. C'était un territoire non juif, mais là, il devait être juif, là, quand que. Ouais. C'était non juif quand que Ésaïe a fait cette prédiction-là, quand même. Un fait un petit peu surprenant. Un autre sujet que je vous amène, l'autorité de Jésus-Christ sur les démons. Parce qu'on voit dans la Bible que Jésus avait une bonne autorité sur eux autres. Premièrement, je voudrais parler de l'autorité de Jésus tout court. Parce que Jésus, il entre dans les synagogues, puis il enseigne. Puis, je pense que de la manière que j'ai compris, le monde n'était pas habitué à ça. Parce que lui, il enseigne avec autorité. Là, tout de suite, les gens, ils ont dit, de quelle autorité qu'il vient prêcher, lui. Puis, les gens, ils étaient vraiment frappés par sa doctrine, par ses enseignements. Ils étaient impressionnés. Ils étaient même étonnés par son autorité. Un petit passage qui parle de ça. Je vais vous le lire. Marc 1, 22. Ça dit clairement, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Pourquoi que ça dit ça? Parce que les rabbins, eux autres, ils recevaient l'autorité de l'école où est-ce qu'ils avaient appris, où est-ce qu'ils avaient suivi leur cours. Tu sais, comme eux autres, ils devaient dire, lui, il a l'autorité de l'école de je sais pas quoi, là, un nom d'école, là. La polyvalente Saint-Léonard, mettons. Fait que, eux autres, ils recevaient leurs autorités du professeur qu'ils avaient enseigné, si on veut. Ben, Jésus, lui, il a jamais été école pour ça. Il avait autorité sur les Écritures. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faisait des enquêtes sur lui. Puis lui, il enseignait des choses nouvelles de sa propre autorité. En plus, il enseignait des choses que les autres n'avaient jamais entendues. Moi, ça me faisait penser à quoi, ça? Moi, j'ai grandi dans le catholicisme quand j'étais jeune. Puis qu'est-ce qui a fait que je suis devenu chrétien? J'ai entendu des enseignements nouveaux, des affaires que j'avais jamais entendues. Puis pourtant, c'était tout là-dedans. Tout était là-dedans. C'était pas des mensonges, c'était pas des inventions. C'était là-dedans. Fait que ça me faisait penser à ça. Bien, l'autorité de Jésus, nous autres, on sait d'où elle venait. Donc, même si les gens ils ont mis du temps à reconnaître son autorité, les rabbins puis les pharisiens qui enquêtaient sur lui puis qui posaient des questions, on est rendu aux démons. Les démons, eux autres, ils l'ont vu tout de suite, son autorité. Puis, comme dans Marc 1, 24. Ah, OK, ça commence à... Ouais, 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? » Là, c'est pas l'homme qui parle, là. C'est le démon qui est dans lui. Là. Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Jésus, il demande tout le temps aux démons de se taire de ne pas parler de lui quand il est en leur présence. L'auteur que je lis, lui, dit que peut-être que c'est juste parce que les démons, pareil, ça fait pas une bonne, un bon témoin pour dire que c'est Jésus. Moi, je pense aussi que Jésus voulait qu'on voit plus le côté qu'il a fait du bien à cet homme-là en le libérant de son du démon qui est en lui, plutôt que de vouloir prouver qu'il était le Messie, là. Parce que Jésus, il avait une bonne pensée, comment que je dirais, qu'il voulait pas faire de miracles pour que le monde se mette à croire en lui. Il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait, c'est juste parce qu'il avait bon cœur puis qu'il voulait faire du bien au monde, puis c'était peut-être pour montrer aussi que Dieu aimait les gens, qu'il voulait pas les punir puis les envoyer en enfer puis tout ça. Puis dans Luc 4:35, je vous le lirai pas, mais Luc, lui, vu que c'est un médecin, ben il précise en plus que le démon, quand il est sorti de l'homme, il l'a pas blessé, il a pas fait mal. Tu sais, parce que, comment je dirais, l'autorité que Jésus avait sur le démon, là, on pourrait dire que le démon aurait pu dire ouais, tu veux quelque sorte, mais check ça, va y faire mal puis va le blesser. Non, fallait qu'il écoute ce que Jésus avait fait. Puis d'après moi, il était mieux de pas y faire mal parce que ça aurait pas été bien pour lui. Puis Marc, il dit que le démon il a résisté violemment. Il voulait pas sortir de là, mais je pense qu'il avait pas le choix. Il a provoqué des convulsions. Là, les gens ils ont été bien surpris que les démons lui obéissent. J'ai mis Luc 4:36. Ouais, tous furent saisis de stupeur. Ils ont resté surpris, puis ils devaient avoir même peur. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent aux autorités avec puissance, aux esprits impurs. Et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux alentour. À partir de la ville où est-ce qu'il était, avec toutes les autres autour, ça faisait un gros paquet de monde. Puis vous remarquerez que Jésus, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une étude de fait sur ça, mais je pense que quand il y avait des démons qui étaient chassés, là, c'était comme des grosses affaires bien compliquées, c'était exorcisé, il devait avoir des incantations, il pitchait de la cendre dessus, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il devait faire toutes sortes d'affaires. Tandis que lui, Jésus, il faisait juste dire, sors de là. Il parlait fort peut-être, là, pour faire peur un peu. Là, sors de là, c'est tout. Puis, astine-moi pas. Donc, à cause de ça, ben, sa réputation s'est répandue bien longtemps, bien rapidement, excusez, aux alentours, comme que je disais, là. Lui, il était dans la ville de Capernaum, mais il y avait deux ou trois autres villes autour. Comme une espèce de rayonnement, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook puis YouTube puis ces affaires-là. Fait que c'était du monde qui se parlait. Puis là, la personne parlait un autre plus loin, puis l'autre parlait un autre plus loin, puis un autre plus loin. Ça pouvait prendre peut-être bien une couple de jours avant que ça fasse, que ce qui se fait à cette heure dans deux minutes, là. Mais quand même, ça s'est répandu bien rapidement parce que le monde, il devait parler de ça. Même nous autres, si on verrait ça ici, là, je pense que ça, on resterait bien surpris nous autres même. Fait que, c'est ça que je voulais vous apporter. Là, moi, c'est sûr, c'est un survol que j'ai fait, assez rapide. Puis, pasteur Jean-Sébastien va venir approfondir le sujet, sûrement. Puis, apporter autre chose aussi. Fait que, c'est beau.
Guéri le fils d'un officier qui était malade, puis on pensait qu'il était pour mourir. Puis l'officier était venu voir Jésus, puis Jésus il avait dit, bah, c'est parce que tu veux voir des miracles, là, que tu, dans le fond, tu as besoin que je fasse un miracle pour que je croie. Tu sais. Puis le gars, il dit, non, non, il dit, tu vois qu'il dit, non, non, il dit, je te dis, là, mon fils est malade. En tout cas, il démontre une foi personnelle, puis dès que Jésus dit, ben ton fils est guéri, ben, il s'en retourne, lui, puis... On a lu ensemble qu'il avait rencontré ses serviteurs, mais le lendemain, puis c'était juste 30 km de marche, fait qu'à quelque part, il a dormi. Il s'est couché, le gars. Puis la parole que Jésus avait dit, ton fils vit, ça l'avait rassuré. Il était capable de dormir là-dessus. Puis le lendemain, il a rencontré ses serviteurs, puis il leur a demandé à quelle heure, parce qu'ils sont revenus pour y annoncer la bonne nouvelle. Lui, il s'est retourné par là. Fait qu'à mi-chemin, à un moment donné, on dit, bien, à quelle heure exactement qu'il a été guéri? Ben c'était à la septième heure. Ah ben Colin, c'était exactement à l'heure que Jésus avait dit ton fils vit. Après ça, Jésus était parti, ça c'était à Cana, puis après ça il était monté à Nazareth, puis il est allé comme il fait d'habitude. Il va dans les endroits où il y a du monde, il va dans la synagogue, puis il va lire le prophète Ésaïe. Puis là, il y a la parole qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, etc., pour guérir les malades. » Puis là, il commence... Là, il va arrêter le verset dans le milieu, puis c'était pas la coutume d'arrêter un texte en plein milieu comme ça. Il y avait un nombre de versets à lire, puis il les a pas lus au complet, parce que la suite du passage, après une année de grâce du Seigneur, il y a aussi un jour de jugement. Et comme cette partie-là, Jésus est pas venu l'accomplir tout de suite, mais il va le faire plus tard, il a coupé son texte-là, puis il va dire « Aujourd'hui, la parole que je vous ai lue, elle s'est accomplie. » C'était une façon de dire qu'il était le Messie, qui était le Messie, puis le Saint-Esprit était sur lui pour qu'il puisse aller et faire des miracles. Fait que juste pour mettre ça en contexte avec ce que Benoît vient de dire, c'est que Jésus est en train de commencer son deuxième voyage missionnaire. C'est pas aujourd'hui que ça va se passer, mais dans le prochain message, et il annonce qu'est-ce qu'il va faire. Il a déjà commencé, il a guéri le fils d'un officier du roi à Capernaum. Lui est à Capernaum, ça c'est important. On n'était pas à Capernaum, on était à Nazareth. Là, j'imagine que vous allez me demander des miracles, là. Vous allez me demander de faire comme j'ai fait à Capernaum. Tu sais, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même, commence par faire des miracles dans ton propre village avant d'aller en faire ailleurs, puis là, on va te croire, tu sais. Puis Jésus, il les teste, un peu comme il a testé l'officier, puis il dit, c'est ça, vous voulez voir des miracles, là, pour croire, tu sais. Fait que, il dit, vous allez me dire de faire des miracles, vous allez me demander de prouver que ce que j'ai fait à Capernaum, je peux le faire ici. Il dit, il y avait combien de gens qui avaient la lèpre dans le temps du prophète Élisée? Il y avait plein de lépreux en Israël. Puis là, il va dire, pourtant, Dieu a guéri un lépreux gentil qui était Naaman. Il dit, il y avait combien de veuves qui avaient faim, qui n'avaient pas de nourriture, et pourtant, Dieu a fait apparaître la nourriture miraculeusement à une seule des veuves. Puis ce n'était pas une veuve de juive, c'était une veuve non-juive, qui était la veuve de Sarepta, Élie. Fait que il est test là pour voir. Vous voulez voir des miracles, mais finalement il est en train de dire je vais aller en faire chez les gentils. Je vais aller en faire comme à Capernaum. C'était un gars qui était probablement un non-juif. Tu sais pourquoi? Parce que Jean l'explique vraiment bien dans son évangile. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fait que, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Et où est-ce que Jésus, les siens sont? Ben, c'est à Nazareth, ta barouette. À Nazareth, je veux dire, tu ne peux pas avoir plus quelqu'un qui est, quand Jésus peut appeler les siens. Alors, Jésus va aller à Nazareth, puis il va leur parler, puis il va leur dire ce que je viens de vous dire. Puis là, eux autres, ils vont le sortir de la synagogue de force. Ils vont l'amener sur le mont Précipice, où l'autre nom, c'était le mont du Sceau. Parce que la vieille tradition catholique dit qu'il aurait sorti du milieu d'eux, il aurait sauté en bas de la montagne, mais ça, c'est pas supporté par la Bible. Par contre, le nom de la montagne en hébreu, c'est le mont du Sceau. Donc, c'est une vieille tradition. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Jésus est chez les siens et les siens ne le reçoivent pas. Ça, c'est un principe qu'on va retrouver tout au long des évangiles, tout au long de notre série. C'est que Jésus, quand on est trop proche de lui, on voit beaucoup ses œuvres, on est encore plus responsable de ne pas l'avoir accepté ou de ne pas l'avoir laissé sa place. Et on dit, ah, c'est pas le petit gars de Joseph, ça, là, le charpentier. Aujourd'hui, ce que je vais faire, moi, avec vous, dans les quelques minutes qui me sont données, c'est que je vais revenir sur le message de Ben, parce que, dans le fond, je vais me servir de ce que Ben a dit comme un élan pour parler de la réception qui a eu lieu après la synagogue. À la synagogue, c'est là que le démoniaque a été délivré. Donc, je vais passer au travers cette histoire-là là, de Capernaum avec Benoît. Puis après ça, je vais parler de la réception qui a eu lieu, un peu comme quand on mange ensemble après l'Église ou qu'on se reçoit mutuellement. Bien, chez les Juifs, c'était quelque chose d'important. Puis je vais faire sortir quelque chose d'important à propos de la responsabilité. Fait que moi, j'allume ça ici. Fait que je vais revenir sur le message, je vais parler de la réception, puis je vais parler d'un principe, le principe de la responsabilité. Donc, Capernaum, Benoît l'a vraiment bien dit, c'est un endroit qui est stratégique, puis c'est son endroit de quartier général, c'est-à-dire qu'il va partir de là, il va aller ailleurs, il va revenir. Il va partir de là, il va aller ailleurs, il va revenir. Il va partir, il va aller. Ça va être son point de départ et de retour. OK? Comme je viens de le dire, il est là parce qu'on l'a rejeté chez les siens. Donc, il va aller là où ce qu'on le reçoit. Puis, hasard ou pas, l'officier du roi venait de là. Jésus n'était pas allé le guérir. Il avait dit, il est guéri, il était à 30 km de là. Mais là, il va aller là où on a sûrement déjà commencé à parler du miracle du fils de l'officier du roi. Sa ville le rejette, il change son quartier général. Il aurait pu le faire chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Donc, il est allé ailleurs. Ça, c'est la même chose que Jérusalem, les Juifs dans son général. Ce qui est arrivé à Nazareth va aussi arriver dans la nation juive. La nation juive ne va pas accepter qui est Jésus-Christ. Donc, Jésus va se tourner vers les gentils, qui est nous, puis il va faire son Église, un peu dans le même modèle. Donc, on va appeler ça un microcosme. Un microcosme, c'est quoi? C'est un petit royaume. C'est un échantillon d'un plus grand royaume. Ce qui se passe dans le grand royaume, ça se passe aussi dans un plus petit... Un plus petite échelle. Ça a été très bien expliqué, c'est stratégiquement situé près de la Villa Maris, la voie de la mer. Puis j'ai voulu, en bleu, vous illustrer ce que Benoît parlait. Là. Ici, là, le petit point rouge qu'il y a ici, c'est ça ici. Capernaum, mais se trouve être ici. Puis le petit chemin en blanc que vous voyez descendre tout le long ici, là, ça se trouve être la Villa Maris qui se trouve être la ligne bleue ici. Donc, je ne sais pas si on peut juste se remettre en contexte, mais Jésus a commencé à faire ses miracles où? En public? Non, il l'a fait en cachette. Il a fait ses miracles en cachette à Cana. Où c'est qu'il a fait ses miracles en public en premier? À Jérusalem. À quel moment? À Pâques. Pourquoi à Pâques? Parce qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui arrivent de partout. pour célébrer la Pâque, puis ils s'en retournent chacun dans leur coin. Fait que Jésus, ce qu'il voulait, c'est faire parler de lui. Il voulait faire connaître la bonne nouvelle que le royaume était proche. Fait qu'il a commencé à Jérusalem. C'est ça, là, maintenant, qu'il va faire comme geste. Et Ben, tu l'as bien traduit, c'est près d'une route. Donc, oui, il y a des villes autour, mais il y a les gens qui arrivent, puis ils repartent. Les gens arrivent, ils repartent. Les gens passent, ils passent, ils passent. Fait qu'ils en parlent. Donc, c'était important pour notre Seigneur Jésus d'être dans cet endroit-là, probablement parce que ça a été une des manières de diffuser la bonne nouvelle du royaume. C'était, comme disait Ben, un accomplissement prophétique. Moi, je vais mettre l'emphase sur le même passage que lui, mais il dit que c'est la voisine contrée de la mer. C'est moi, si je veux mettre l'emphase sur ce qui est en gros ici. Ce peuple voit une grande lumière, et c'est sur le peuple qui habite l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je vais revenir à la fin de mon message avec ça. Donc, Benoît a parlé ensuite de l'autorité sur les démons. Puis, c'est dans la synagogue que ça se passe. Il enseignait, comme disait Ben, avec autorité. Ben disait que son autorité vient du Père. On voit dans Ésaïe 50 que le Seigneur, il dit ici, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. » Donc, comme Benoît disait, Jésus avait de l'autorité parce qu'il était enseigné par le Père. Il n'avait pas été dans une école, il n'y avait pas un rabbin qui l'avait certifié, qui avait donné un certificat, dire « t'es formé de tel rabbin hein? ». Il est reconnu rapidement par les démons et il va refuser qu'un démon lui rende témoignage. Il y a un démoniaque dans la synagogue, comme tu disais Benoît, lui il a tout de suite dit « tu es le Fils de Dieu ou tu es le Dieu vivant, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu nous veux? » Puis plus tard, le soir, là il va se passer la journée du samedi matin, le sabbat, donc ils vont voir le matin, ensuite ils vont aller manger ensemble au repas avec la belle-mère, tout ça, puis au coucher du soleil, les démoniaques vont commencer à arriver. Démoniaques, puis on va amener les démoniaques, on va amener les malades sur des civières, sur ça de. C'est écrit ceux qui avaient des démoniaques. Fait que le démoniaque n'est pas dit hey, non, non, toi tu t'en viens, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Puis les malades, donc, qui sont venus ce même soir-là. On lit justement dans le prochain passage, prochain acétat, prochain clic. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant. Regardez ça. Les démons, ils sortent, puis en partant, ils disent hey! C'est comme, qu'est-ce qu'ils font là à dire ça, eux autres? Ils savent qu'ils ne devraient pas, là. Mais ils les menaçaient, ils ne leur permettaient pas de parler, ils leur coupaient secours parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc, quand le texte donne une explication, on va là, en premier. Jésus dit, ils savaient qu'il était le Christ. Pourquoi? Les démons l'ont vu, eux autres, là. Ils arrivent avant d'être des démons, ils étaient des anges déchus. Ils étaient des anges. Je suis d'accord avec ça? Est-ce qu'ils ont vu le Seigneur? Ils ont vu le Seigneur. Donc, ils connaissent le Seigneur. Bon, il n'y avait pas cette forme corporelle-là, mais eux autres savent qu'est-ce que Dieu fait. Il envoie son Fils. Donc, ces êtres-là marchent par la vue et non par la foi. Ils n'ont pas besoin... Oui, Jacques va dire, les démons croient et ils tremblent. Ils savent qui est, puis ils acceptent cette position-là. Mais pourquoi... Puis j'aimerais ça poursuivre la discussion. J'ai aimé le cœur de Dieu au travers de ce que tu disais, Benoît, tu sais, que Jésus, il veut pas faire les choses pour prouver, tu sais, dans le sens où il a juste besoin que les gens aient la foi, tu sais, sans faire un geste. Dans ce passage-là, ce que Jésus cherche, puis on va voir tout au long des évangiles, il cherche la foi, l'expression de la foi, OK? Pas nécessairement parce qu'ils ont mangé ou parce qu'il y a eu des multiplications de pain ou parce qu'il y a eu des miracles, mais la foi parce qu'ils ont la foi. Sans avoir vu un signe, ils le croient. Et les démons veulent court-circuiter ça. Parce que ce qu'il aimerait faire, dans le fond, Dieu, c'est que les gens acceptent qu'il est le Fils de Dieu en considérant ses œuvres. Oui, d'une certaine manière, il veut le faire pour démontrer. Parce qu'il va se passer quelque chose au blasphème contre le Saint-Esprit. Avant le blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus fait des miracles pour démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Après le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne fait plus de miracles sauf en présence de la foi qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il y a vraiment une transition dans les évangiles qui est importante de comprendre. Et oui, les miracles qui ont été faits à Jérusalem et ceux qui sont faits à Capernaum ont pour but de faire parler, mais il ne veut pas être évangélisé par des démons. Il ne veut pas que le monde soit évangélisé par des démons à cause du caractère. Mais aussi, c'est que les gens... ceux qui évangélisent, là, ici, c'est le peuple juif qui devrait être en train de croire, puis devrait être en train d'évangéliser, et eux autres sont en train de, comme, court-circuiter ce que Dieu veut faire. C'est un peu comme quand tu joues à un jeu de société, puis il y en a un qui sait la réponse, puis il n'est pas supposé de parler, genre, on joue au loup-garou, puis lui, il a les yeux ouverts, tu comprends-tu? Il voit toute la game, tu sais, puis là, il donne des... Il donne des... Papa, c'est maman. Il donne des trucs parce que lui, il voit. Puis tu dis, « Shit! Parle pas! Tu triches! » Ben, il voulait effectivement, ces démons-là, court-circuiter qu'est-ce que Jésus voulait obtenir du peuple juif, qu'il ne l'obtenait pas. Il cherche l'expression de la foi et les démons, eux, marchent par la vue. Les exorcistes, parce que dans plusieurs textes, c'est écrit parce qu'ils le savaient. Ils le savaient, eux autres. Ils le savaient pas parce qu'ils ont placé leur confiance, parce qu'ils n'ont pas vu. Ils l'avaient vu, ils le savaient. Les exorcistes sont faits directement sans formule. Ben l'a bien dit, fait que je vais plus loin. Sa renommée fait le tour de la région. Ça aussi, ça a été très bien. Donc, l'autorité sur les maladies. On est le samedi après la synagogue et la tradition chez les Juifs, c'est de se recevoir mutuellement. C'est encore le cas aujourd'hui. Les gens partagent des gros repas le jour du sabbat ensemble. Et donc, Jésus suit cette tradition-là. Et la belle-mère de Pierre est malade, elle a une fièvre, et Luc, qui est médecin, va ajouter qu'elle avait une fièvre chronique. Dans l'original, c'est les termes qui sont utilisés. Donc, c'est quelque chose qui ne la lâchait pas. Et là, Jésus va se pencher sur elle, va prier pour elle. Ben, il va pas prier, il va la guérir tout simplement. Puis elle va être délivrée immédiatement. Et le texte dit qu'elle se lève et va les servir immédiatement. Luc encore va prendre le mot immédiat. Immédiatement, il l'a pris par la main. Il y a tout le langage du serviteur est très important pour Luc parce que il va aussi montrer qu'il est le Fils de l'homme, je pense. Je vais laisser passer ce point-là, je ne me rappelle pas. Le soir, pourquoi est-ce qu'il s'est passé le repas, puis que c'est juste au coucher de soleil que là les malades ont commencé à déferler, puis les démoniaques? Ben, c'est parce qu'il y avait une règle, on ne soigne pas le jour du sabbat, à moins que ça soit dangereux pour la vie de la personne. Si c'est dangereux pour sa vie, ben on va pouvoir la soigner. Et donc, on a attendu d'être légal pour amener nos démoniaques, puis nos malades. Puis là, le mot s'était répandu. Là. Les gens, là, ils s'en venaient là, aussi. Là. Fait qu'au coucher de soleil, c'était une nouvelle journée pour les Juifs. Une nouvelle journée commence au coucher de soleil. C'est pour ça que Jésus est vraiment ressuscité le troisième jour, même si ça s'est passé le vendredi, puis on était rendu le dimanche, c'est au début du troisième jour que Jésus ressuscite. Donc, avant le coucher de soleil, c'est un. Donc, au coucher de soleil, c'est une nouvelle journée. Puis même si tu arrives au milieu d'une journée, pour les Juifs, c'est une troisième journée. C'est à chaque fois que tu touches à la nouvelle journée, c'est une nouvelle journée. Donc, c'était une nouvelle journée. On n'était plus le sabbat à partir du coucher du soleil. Fait qu'on a pu amener ces malades-là. Et Matthieu va citer un accomplissement d'Ésaïe. Vous vous rappelez, hein? Même Pasteur Richard en a parlé la semaine passée, comment Matthieu, c'est quoi le but de son livre, lui? Qu'est-ce qu'il veut prouver, Matthieu? Oui, que Jésus est le Messie attendu par les Juifs. Donc, beaucoup de prophéties du prophète Ésaïe. Je pense que Pasteur Richard parlait de 9 prophéties qui, dans la nativité, là, il y a eu 9 prophéties. Dans Ésaïe 53, il va citer dans Matthieu 8, 17, il va citer cette partie du passage-là. Après que tous les malades soient venus puis qu'ils aient guéri, Matthieu il va dire afin que s'accomplisse la promesse, ce sont nos souffrances. Ah non, c'est quand il a guéri sa belle-mère. C'est quand il a guéri la belle-mère de Pierre. Il dit afin que s'accomplisse cette parole, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu penses que la souffrance qu'il a portée, les douleurs qu'il s'est chargé, on va souvent attribuer ça à la croix. Parce que le passage d'après dit qu'il a été puni et frappé de Dieu. Mais Matthieu, il ne fait pas référence à la croix qui va venir dans 2 ans et demi, 3 ans. Il fait référence au fait que Jésus guérissait les malades, qu'il avait l'autorité sur la maladie. Il a porté nos maladies dans le sens où il guérissait les malades qui lui étaient apportés. Et ça, c'est important parce qu'il y a une théologie ici que les gens vont dire, puisque Jésus-Christ est mort sur la croix, toutes nos maladies ont été portées sur lui, donc on devrait être guéri. Puis que si on n'est pas guéri, bien, c'est parce qu'on n'a pas la foi qui peut nous guérir. Puis ça met un fardeau, ça met une conscience de soi indue à une personne qui ne devrait pas nécessairement prendre ce passage-là puis dire, ben oui, toutes les maladies devraient être guéries. Fait que ici, rappelez-vous, dans Ésaïe 53, quand que ça, vous allez entendre souvent parler de ça, il a porté nos maladies, Oui, c'est vrai que Pierre dit qu'il a, par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Dans Pierre, il va dire sa meurtrissure au pluriel, tellement qu'il y avait une plaie. Il va vraiment référer au fait qu'on est guéri dans notre relation avec Dieu. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Mais les gens font un lien que Pierre n'a pas nécessairement fait. Tandis que ici, Matthieu fait vraiment un lien qui dit oui, c'est, il fait un lien au fait que la belle-mère de Pierre est guérie. Hein? Et puis, qu'il a porté nos souffrances. Et quand on remet ça dans le contexte, bien là, ça fait du sens. OK, assez parlé là-dessus. Je suis rendu là, moi. Qu'est-ce qu'on a vu dans les principes qu'on a vus ce matin? Je pensais que je l'avais mis. Donc, il y a une prophétie de Ésaïe qu'on a lue un peu plus tôt. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le principe qu'on va regarder ce matin, j'essaie de voir. Là. On va regarder un passage dans Matthieu 11. Ça va être plus tard, mais je veux vous parler de Capernaum. Tu sais, c'est un endroit qui a été, comme disait Ben, un endroit de miracle. Pendant les prochains mois, prochaines années, ça va être un endroit vraiment de beaucoup de miracles. Puis regardez qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu dit dans 11, versets 20 à 24. « Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. » Quand il disait « c'est là que la majorité des miracles ont eu lieu », c'est effectivement vrai. « Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Donc, on sait, nous, parce qu'on voit l'histoire d'après, qu'il a fait beaucoup de miracles, mais que ces villes-là ne se sont pas repenties. Parce qu'elle ne s'était pas repentie. Malheur à toi, Chorazim. Si. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ces villes-là ont eu plus de lumière que d'autres villes. Les Juifs ont eu beaucoup de lumière comparativement aux autres nations. À Tyr et Sidon, qu'est-ce qui nous frappe dans ce passage-là? C'est que pour Tyr et Sidon, c'est des non-Juifs. Qu'est-ce qu'il y a aussi à Sodome? Des non-Juifs. Encore une fois, regardez la comparaison avec Naaman, avec la veuve de l'autre histoire. Tyr, c'était une ville qui était, pas une ville, c'était un peuple sur les eaux. avec un point d'ancrage sur la terre, là, mais c'était un peuple qui était très riche sur la terre, sur les mers. C'était des trafiquants. Ils rentraient dans un village, ils arrivaient avec leur bateau et faisaient du trafic. Le péché de Tyr, c'était d'avoir un cœur qui s'enflait à cause du trafic, puis on commençait à dire qu'ils étaient Dieu, littéralement. Il disait dans Ézéchiel 28, « Ainsi parle au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Voici que tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour celle de Dieu. Voici, je vais faire venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples te tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils sueront ta beauté, ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras, etc., etc. Puis là, ça dit qu'ils vont être balayés, même ce qui reste d'eux va être balayé, jeté dans la mer. Puis c'est, ça a été commencé avec Nébuchadnezzar, quand Nébuchadnezzar a rentré, ça a été fini avec Alexandre le Grand, qu'il avait besoin pour aller les atteindre de se faire un pont. Fait qu'il a pris la ville de Tyr qui était sur la côte, qui est proche du Liban. Il a raclé tout ça, il a poussé ça dans la mer, puis ils ont fait un siège qui a duré des années. Puis à un moment donné, ben ils ont rentré avec ça. Puis là, aujourd'hui, c'est une ville sous la mer, il y a de l'eau au-dessus. Puis le texte disait, les pêcheurs tireront les filets sur toi. Puis qu'est-ce que, moi j'ai pris des photos de Google Maps, puis c'est fou, là, t'as des pêcheurs tout le long. T'as des gens d'abord qui étendent leur filet sur ce pont-là, là. Puis ça, c'est quelque chose qui est resté encore, puis encore sous l'eau. C'est une ville qui a été remplie d'eau, mais encore une île qui demeure. En tout cas, tout ça pour dire que Dieu avait dit à Tyr que c'était fini, que même si elle avait un orgueil puis qu'elle dominait le marché économique du temps, Dieu y avait dit « je te rabaisse ». Tu sais. Mais il dit « si Tyr avait vu les miracles que vous avez vus, eux autres, ils auraient revenu puis ils subsisteraient encore aujourd'hui ». Pour Sodome, c'est assez évident. C'était des péchés de nature sexuelle à l'extrême. Et on voulait... c'est ça. J'ai pas besoin de développer ben. Je pense qu'on se rappelle que c'est une ville qui a été détruite par le feu. Les anges pilotes ont sorti de la ville puis se sont faufilés au travers d'une foule en colère qui voulait lui faire violence. Puis finalement, un peu comme Jésus qui est sorti de Nazareth, tu sais, de sa ville, sans avoir de... Mais il dit, eux autres, par exemple, s'ils avaient vu les miracles qui sont arrivés ici, eux autres, ils auraient cru. Ce que je remarque dans ma nouvelle étude sur les évangiles, c'est... Oups, je vais revenir, si tu veux. Remets-moi le PowerPoint, s'il vous plaît. Yes. OK. C'est le principe de responsabilité. L'étymologie du mot responsabilité, ça veut dire obligation de répondre de ses actes. C'est, quelqu'un a déjà dit, c'est l'habilité de répondre. Responsibility. Hein? Une responsabilité. Une habilité, une capacité à répondre. Et à date, ce qu'on lit dans les évangiles, c'est Jésus qui est challenge. Tu veux que je fasse un miracle pour que tu croies, tu sais. Il challenge leur responsabilité. Et on voit ce principe-là en image. Plus Dieu se révèle, moins il y a d'excuses pour ne pas croire. Plus Dieu se révèle, moins il y a d'excuses pour ne pas croire. On voit ça tout le temps dans la vie de Jésus-Christ. Donc, je vous amène avec moi à la synagogue. Là, c'est plus Jésus qui prêche, c'est les disciples qui enseignent. On est dans Actes 13, pour vos notes personnelles, dans Actes 13, 42 à 49. Je commence la lecture. puis on va en avoir une partie à l'écran. Donc, c'est Pierre puis Barnabas. Lorsqu'ils sortirent, Paul puis Barnabas, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc, encore une fois, au sabbat, ils vont où? Dans les synagogues. À l'issue, à la fin de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas et s'entretinrent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Hey! L'assemblée finit, puis il leur demande, « Hey, la semaine prochaine, là, venez encore, s'il vous plaît, on vous en prie, parlez-nous encore de ces choses merveilleuses-là. » Et là, au verset 45, les Juifs voyant la foule, écoute, toute la ville est là, presque. Les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie. Et ils s'opposèrent à ce que disait Paul. Ils les contredisaient et les injuriaient. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Oups. Il n'est pas là. OK. Je ne l'avais pas sauvegardé. Acte. Ah, ben, je l'ai ici. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Les Juifs d'abord. Les gentils ensuite. Nazareth en premier, les gentils ensuite. C'est un peu le pattern ici. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, regardez la responsabilité ici, mais puisque vous la repoussez, s'il la repousse, c'est parce qu'il aurait pu l'accepter. Dire oui à Jésus, ça vaut de quoi si tu aurais pu dire non? L'Église a besoin de s'affranchir d'un fardeau augustinien de l'interprétation des Écritures. Augustin a amené beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est par lui qu'on a eu les premières tablettes des Écritures, les premières tablettes qu'on a imprimées, les Écritures. Mais il y a une interprétation augustinienne de certains passages. Celui que je vais lire, c'est vraiment une interprétation augustinienne. Qu'est-ce qu'Augustin croyait pas vraiment à la liberté individuelle. Il croyait que Dieu, étant parfait, ne peut pas changer. On appelle ça la séité de Dieu. Et ça vient plus des Grecs que de l'Écriture. Et sa pensée était que tout était scellé, que Dieu avait donc tout, en tant que souverain, ne pouvait pas changer, et le destin de l'univers et même des individus était déjà scellé. Puisque vous repoussez, donc il aurait pu l'accepter, mais ils ont choisi de la repousser, écoutez bien, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés? Non, ils s'en jugent indignes. Ils s'obstinent, ils ne veulent pas essayer d'examiner qu'est-ce que les apôtres ont enseigné au sabbat, ils cherchent des raisons de conflit avec eux plutôt que de comprendre puis d'essayer de voir qu'est-ce que Dieu leur dit au travers eux autres. Il dit, voici, nous nous tournons vers les païens. Verset 47, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut aux extrémités de la terre. » Dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, c'était Jésus qui était la lumière qui est venue dans la ville qui était près de la mer. Maintenant, qu'est-ce que Paul et Barnabas disent? Nous sommes la lumière et par nous, Dieu va porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient. Écoute, hey, là, les gens sont contents. Les païens qui sont là sont super contents, eux autres, parce qu'ils se disent, « Hey, c'est pas juste les Juifs, c'est nous autres aussi. » Et donc, eux autres, c'est écrit, « Les païens se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Ah! Jean-Sébastien, regarde ici. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dans l'original, c'est même pas le mot destiné qui est là. C'est se préparer. Puis c'est à la voie passive. À la voie passive, c'est je fais une action pour en retirer moi-même les bénéfices. Donc, tu te mets beau, là, tu sais. Ben, tu te baignes, tu ne pourras pas avoir de l'air d'un pou. Tu fais une action pour en goûter aux bénéfices. Bien, c'est exactement ça. Ceux qui se préparèrent, ceux qui disposaient leur cœur. Pourquoi qu'ils ont un cœur disposé? Hey, le salut n'est pas juste aux Juifs, il est aussi à nous. Eh bien, c'est bien cool, ça. Ils glorifiaient la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés. Ils ont dit, ils ont porté attention à ce que la lumière leur était apportée. Puis ils ont dit, Colin, c'est vrai ce que tu me dis? C'est une méchante bonne nouvelle. Ils se préparèrent, ceux qui se préparèrent à la vie éternelle, ceux qui se disposèrent, le mot disposer, bon, préparer aussi, mais c'est celui qui fait l'action et qui en goûte les bénéfices. Donc, la lumière vient, je dis, bien, ça pourrait-tu être vrai, ça? Ça pourrait être vrai. OK. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui se disposèrent à la vie éternelle crurent. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque vous la rejetez, vous vous jugez vous-même indigne de la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit juste le passage avant. Vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. En conclusion, ce matin, je veux revenir sur ce principe-là. Jésus guérit l'officier d'un roi, mais il regarde pour voir, tu veux que je fasse un miracle, hein? Parce que dans le fond, tu vas pouvoir croire après. Non, non, il dit, mon fils est malade, il va mourir. Fais quelque chose. Il croyait que le Seigneur pouvait faire quelque chose. Quand Jésus a prêché à Nazareth, il ne trouvait pas des gens qui étaient réceptifs. Il trouvait des gens qui voulaient juste avoir des miracles. Fait qu'il leur a donné des histoires de non-juifs pour montrer quoi? La veuve de Sarepta, là, elle avait juste un petit peu de farine, là, puis un petit peu d'huile, puis elle l'a fait pareil. T'sais, elle l'a fait le gâteau, puis après ça, elle allait mourir. Là, t'sais, mais le Seigneur a eu pitié de sa faible foi, puis il a quand même multiplié l'huile, puis la farine. Le Naaman qui est là, 7 fois dans l'eau. 7 fois. Ouais, il y en a de l'eau dans mon pays, tu sais. Son serviteur dit, « Hey, si tu avais demandé d'aller dans de quoi de bien, bien compliqué, tu l'aurais fait, mais là, il te demande de quoi de simple, puis tu ne le fais pas. » Fait que là, il y a une petite négociation entre le serviteur et Naaman. Naaman, il va 7 fois dans l'eau. Sur ta parole, je vais le faire, tu sais. Puis Naaman était guéri. Pourquoi? Parce qu'il a finalement accepté la parole qui lui avait été dite. Il y a eu beaucoup de miracles qu'on a vus un matin, que c'était la capitale, le quartier général auquel il revenait pour repartir en mission. Il faisait beaucoup de miracles dans ce coin-là. Et à cause qu'il y a eu beaucoup de lumière, une grosse lumière, il y a eu une grosse responsabilité. Jésus dit, si un serviteur sait qu'est-ce que son maître il demande, puis il fait rien, il n'a rien préparé, puis son maître revient, Jésus dit, il va être puni plus sévèrement parce qu'il savait qu'est-ce que le maître voulait. Puis il ne l'a pas préparé. Plus de lumière, plus de responsabilité. Dieu met une grande importance sur notre responsabilité. Et si c'est, pas si c'est vrai, puisque c'est vrai, bien c'est important de nourrir notre foi. C'est important de s'exposer à la lumière des Écritures pour avoir plus de foi. Dans Romains 10, 17, c'est écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la Bible. Oui, mon Dieu peut le faire. Qu'est-ce qui fait qu'on est une femme, un homme de foi? C'est quelqu'un qui va se nourrir de ce Dieu capable-là. Puis il dit, sais-tu quoi? Je ne le vois pas agir nécessairement dans certains domaines miraculeux, comme j'ai lu dans les Évangiles. Mais je crois qu'il peut le faire. Je crois quand même qu'il peut guérir mon père de son AVC, de ce qu'il a vécu. Je crois qu'il peut faire des miracles, qu'il peut ressusciter même des morts, tu sais. Est-ce que je vais le voir? Je ne sais pas, mais j'ai une chose certaine. Ma foi est nourrie parce que je sais que Dieu peut, puis j'ai ma foi en lui. Donc, c'est important de nourrir notre foi, puis comme je dis en conclusion aussi, puis on va finir avec le chant. Ça, c'est justement mon témoignage. Dans les paroles du chant qu'on a chanté, « Je vois ton cœur dans des milliards de facettes. Je te vois dans toutes tes œuvres. » C'est important d'édifier ou de fortifier notre foi par des témoignages. OK? Moi, ça fait plus d'un an que je demande à l'Église de prier pour moi pour une balance entre le repos et le travail. Comment est-ce que je pourrais devenir plus équilibré? Puis, je vois Dieu agir dans ce domaine-là, puis je voulais vous le dire. J'ai fait une erreur cette semaine. On est allé à Montréal, puis je pars à Belleuil, je pogne un autobus. Après ça, je pogne un métro, puis je pogne un autre métro, puis un autre métro. Puis là, je marche jusqu'à mon lieu de travail, tu sais. Mais je suis dans la lune, tu sais, puis je regarde mon cellulaire, puis je lis un article en même temps. Fait que je monte, j'étais supposé aller sur la voie orange, je m'envoie sur la voie verte. Je suis rendu à 4-5 stations, trop loin. Je suis là, ah, non, je suis pas dans la bonne. Sors, monte, descend, tourne au bord. Elle revient, rendu à Berri-UQAM, monte, passe par-dessus, redescend. Mais c'est parce qu'il y a une ligne verte de ce côté-là, puis il y a la ligne orange de ce côté-là, sur le même étage. Fait que moi, je suis une route, ça. Je continue à lire mon article. Je rembarque dans le train vert encore. Hey, j'ai fait 22 000 pas, juste pour vous donner un exemple. Je ne sais pas comment que s'il y en a qui mesurent leurs pas, mais d'habitude, une journée, moi, c'est 3 000 pas. Tu sais, j'étais rendu à 22 000 pas à la fin de la journée. Je vous disais que Dieu répond à vos prières, c'est que je m'en vais faire un nettoyage d'une salle blanche, puis j'ai oublié mes outils pour laver les murs. J'arrive à ce laboratoire-là, puis disons, le laboratoire est occupé, fait qu'il n'y avait pas de communication entre celui qui s'occupe du labo, puis... Mais si tu veux, on peut te le laisser pour un 40 minutes. Ben, je dis, si tu me le laisses, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que je fais le 40 minutes, je suis assis au deuxième étage avec mon lunch pour manger à midi pile. Ben, vous allez dire, wow, c'est... Ceux qui sont venus avec moi savent que ça peut être des quantités énormes de travail, des fois, pour une journée. Je prends une demi-heure, je mange, je repars, puis je suis arrivé à Belœil, avec les métro, autobus, marche, à 10 minutes près de ma femme qui m'attendait. Ça faisait juste 10 minutes, tu sais. Puis moi, je me suis pas dépêché pour arriver à cette heure-là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis si j'arriverai à l'heure que j'arriverai, mais je disais au Seigneur, je dis, c'est merveilleux parce que j'ai dit, je peux m'arrêter, manger. Puis l'autre, il y a deux semaines, j'ai arrêté pour manger. Puis si j'avais pas arrêté pour manger, j'aurais travaillé plus. Parce qu'il est arrivé que je suis arrivé exactement dans la minute où le camion livrait les vêtements, puis moi je les prenais en tout cas. Puis je dis à ma femme, j'ai écrit ça dans mon journal, je dis à ma femme, j'ai dit, Dieu dirige à la minute près. Puis ça, pour moi, c'est comme si, OK, repose-toi, là, tu casses à hélice, mange ton lunch, repose-toi, repos, travail. Puis ceux qui, tu sais, qui ont entendu souvent mes prières, depuis que je suis allé à l'école, c'était travail à l'école, fais les devoirs le soir, va dans la compagnie. Philippe qui conduisait pour moi, tu sais, c'était comme le repos, j'ai comme perdu cette cadence-là, puis je travaille fort à la récupérer. Puis une autre chose aussi que j'ai demandé des prières, c'est quoi déjà? Je vous achète souvent avec ça? Ah, sommeil! Eh bien, savez-vous qu'une personne de 20 ans, mettons, là, qui commence à devenir jeune adulte, là, elle dort à peu près 20 % de sommeil profond par nuit. Puis moi, j'en dors 31 %. Mais des fois, je ne dors pas une bonne nuit, mais ça, c'est que je sais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. J'ai comme pris quelque chose que j'aurais pas dû manger le soir, juste comme ça. Puis j'ai entre 10 et 15% de sommeil paradoxal qui... Moi, j'en avais pas de sommeil paradoxal parce que j'ai les pieds sans repos. Fait qu'ils me réveillent toujours la nuit. Puis, Seigneur est bon parce que j'ai commencé à dormir. Puis je goûte à bien dormir. Puis je le dis à Stéphane, j'ai bien dormi aujourd'hui. Wow! C'est quoi? On devrait tenir un registre des choses qu'on a demandées à Dieu pour édifier notre foi, puis revenir sur, hey, c'est vrai, il a agi, puis on l'a vu agir. Ça va nourrir notre foi, puis ça va, je crois que ça va nous amener dans un endroit où on veut encore plus grandir dans des demandes, puis être suivi dans ce qu'on a demandé à Dieu pour nous et pour les autres, pour qu'on devienne comme Anne. Elle proclamait publiquement les bontés de l'Éternel. On va finir avec ce chant-là. Je vois, Seigneur, je te vois dans les milliers de facettes, dans des milliards de facettes, je te vois dans toutes tes œuvres. Puis qu'on ne soit pas comme les gens de Nazareth, tellement proches de nous qu'on ne voit plus, on ne voit pas quel grand Dieu qu'on sert. Nourrissons notre foi par la parole de Dieu puis par ses grandes œuvres. On va finir avec ça. Père, ben, je vais revenir pour prier après le chant.
Ô Dieu créateur, au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoigne de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. La nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers s'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Échec mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes son milliard d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton âme. Tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliarde facettes. Chacune a un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux. Comme tu le referais 100 milliards de fois, mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.